Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la mort d'Aurélien Piogé. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document d'Anne-Sophie Martin, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute. Sylvie, la fille de Maurice, le viticulteur.
Quand je suis arrivé, il y avait donc Landry, Maxime et Claude, et Chloé. Et à un moment, je me suis retourné et c'est là que j'ai vu en fait Aurélien qui était sur le côté. Il avait le visage tout gonflé, c'était vraiment violet, c'était moche, c'était pas beau du tout à voir. Il était à plat ventre, ouais, donc il était attaché, ouais, il avait les mains attachées dans le dos. André ou Claude a dit non, on va le mettre dans son camion le temps qu'il se repose. Ils l'ont détaché, mais ils sont obligés de le tenir. Il pouvait pas marcher tout seul, c'est impossible qu'il marche tout seul. C'est pour ça que je dis, il y a des trucs qu'on peut pas oublier. Surtout son visage, c'est autant de violence. Non, et même moi, je me dis, pourquoi j'ai pas fait stop? Pourquoi j'ai pas dit stop, arrêtez? C'est pour ça que je m'en fais énormément.
Les gendarmes découvrent qu'un événement inattendu s'est produit en fin d'après-midi, ce même samedi. La visite surprise d'Yvan, un copain d'Aurélien qui passait le voir.
Maître Isabelle Guérin, l'avocate des parents d'Aurélien.
L'arrivée d'Yvan va précipiter les choses. Il s'étonne de ne pas voir Aurélien. Et il va poser des questions, il va dire où est-il. Dans un premier temps, tout le monde va dire qu'Aurélien est parti du campement pour la journée. Mais à la fin de la journée, ne le voyant pas revenir, Yvan va à nouveau poser la question « Où est Aurélien ?» Il monte dans le camion et là, il découvre à terre Aurélien méconnaissable. Sa tête a triplé de volume, les yeux sont tellement tuméfiés qu'il ne peut ouvrir les yeux et d'ailleurs, Aurélien ne peut même pas le reconnaître.
Maître Louis-René Pénaud, l'avocat du grand-père d'Aurélien.
Je me demande à quel point les premiers coups ne vont pas véritablement le sonner, à quel point on n'aura pas une forme de commotion cérébrale qui va l'empêcher finalement de se défendre.
Yvan lui parle et Aurélien ne parle plus. Il a quelques gémissements, mais il est déjà, on peut dire, comateux. Yvan repart voir les autres. Il leur dit « Il y a urgence, vous devez l'amener à l'hôpital. » Les filles sont d'accord avec lui, mais Claude Boulet, Landry Frias, Maxime Deschamps ne veulent pas.
Et Yvan ne bouge pas.
On va découvrir qu'il y a un convoi qui s'organise. Quelqu'un monte dans le camion d'Aurélien, conduit le camion d'Aurélien, et d'autres protagonistes montent en voiture, et on part, au milieu de la nuit, emmener Aurélien et son camion au loin.
La gendarme Gaëlle Moreau.
Landry et Claude dans son camion. Maxime a pris une voiture. Sylvie est montée à l'intérieur. Donc ils sont quatre.
J'étais dans la voiture avec Maxime. On arrive à un stop. Il y a le camion qui passe. Et après, on a perdu le camion. Maxime prend des petites routes à droite, à gauche, tout ça. Et on les a retrouvés dans le petit chemin.
Les deux hommes, Frias et Boulet, sont à pied. Il leur explique qu'ils ont laissé Aurélien et son camion un peu plus loin.
Et après, on est reparti.
Leur version est de dire on l'a laissé, on l'a abandonné dans le champ alors qu'il était vivant pour lui donner sa chance. Et d'ailleurs, Aurélien va nous remercier.
Maître Nathalie Payard-Goustour est l'avocate de Landry Frias.
Landry Frias dira toujours que ça a été du pur hasard. C'est-à-dire qu'il a pris une petite route à droite, à gauche, à droite, à gauche, pour reprendre ses termes, et il est arrivé dans un champ. Il a dit à Aurélien Piogé qu'il fallait qu'il se remette. Et Aurélien Puget lui aurait dit merci. Et il n'a plus revu Aurélien Puget.
L'adjudant Ronan Le Pape poursuit les auditions.
Sylvie nous déclare qu'elle a perdu de vue le camion. Et sa épouse, qu'ils l'ont retrouvé que 20 minutes plus tard. 20 minutes, ça a laissé le créneau nécessaire à la pendaison.
Frias et Boulet auraient-ils profité de ces 20 minutes pour pendre Aurélien et simuler son suicide? Les quatre convoyeurs n'en disent pas plus, mais le juge ne les croit plus. À l'issue des gardes à vue, 7 personnes sont mises en examen. Ceux qui ont frappé, mais aussi ceux qui ont vu, sans agir, sans porter secours, sans dénoncer les bourreaux. Frias, Boulet, Deschamps et Sylvie sont mis en examen pour meurtre, séquestration, torture et actes de barbarie. Chloé, Alexandre et Yvan, le copain qui est passé voir Aurélien, sont mis en examen pour non-dénonciation de crime et non-assistance à personne en danger. Les langues se sont déliées sur les coups, les tortures, mais le juge n'a encore qu'une demi-vérité. Quand et comment Aurélien est-il mort ? Comment croire les saisonniers quand ils affirment qu'ils n'en savent rien et qu'ils ne l'ont pas tué?
Les juges d'instruction ont voulu vérifier un certain nombre d'hypothèses en raison des mensonges, de l'évolution des déclarations et puis également de cette omerta qu'il y avait entre eux. Maxime Deschamps avait pu déclarer d'ailleurs « tout ce qui s'est passé sur le camp reste sur le campement ». Il y a encore à ce moment-là ce pacte du silence.
Maître Pascal Rouillet, l'avocat de Claude Boulet.
À partir de ce moment-là, les mises en cause n'auront plus jamais la paix. On ne fera pas une, mais plusieurs reconstitutions. On ne fera pas une, mais plusieurs confrontations. On ne fera pas une, mais des dizaines d'expertises.
Dans un premier temps, les résultats de l'expertise vont avantager la défense.
Le journaliste Jean-Yves Lignel se souvient.
Sur les objets de la pendaison, on ne trouve que l'ADN de Puget. Et pas du tout l'ADN des autres éventuels participants.
Maître Thierry Fillon, l'avocat de Maxime Deschamps.
Ce qui pose question et peut-être peut valider l'hypothèse du suicide, puisque si seule la victime a touché ces éléments, c'est qu'aucune autre personne n'est intervenue pour donner la mort.
Pour la défense, c'est l'heure de la contre-attaque.
Si l'on imagine que ceux qui ont frappé, sans gants, à visage découvert, j'allais dire sans précaution, ont tué Aurélien, ça voudrait dire qu'ensuite, qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Ils se sont équipés pour ne laisser aucun ADN sur le corps et sur les objets, sur tout ce qui a été expertisé en long, en large et en travers. Il y a une autre hypothèse, c'est qu'ils ne sont pas intervenus. C'est qu'ils ne sont pas intervenus au moment de la pendaison.
Et puis, un autre argument va servir à la défense des vendangeurs. La température du corps relevée à midi sous la pentille. 36 degrés. C'est très haut. Comme si le décès venait de survenir.
Si la mort est à 6 heures du matin, la mort n'est pas donnée au moment où on a laissé Aurélien dans son camion.
Pour la défense, Aurélien est mort alors que les vendangeurs étaient déjà repartis au campement. Ils sont donc innocents de ce meurtre. Mais les reconstitutions ne vont pas dans leur sens. Celle qui a lieu sur le campement d'abord.
Maître Louis-René Pénaud, l'avocat du grand-père d'Aurélien, était présent.
Le campement va être entièrement reconstitué pour qu'on voit qui pouvait voir quoi, de quel endroit, des tortures subies par Aurélien. On voit bien finalement que le corps d'Aurélien est quasiment au vu et au su de tous.
La reconstitution remet en lumière la passivité des témoins. À 22h, Aurélien était encore en vie et sauvable. Yvan et d'autres ont proposé de l'emmener à l'hôpital. Personne ne l'a fait. Et plus d'un an après, les vendangeurs ne semblent toujours pas mesurer leurs responsabilités lors de ces événements.
L'avocat des parents d'Aurélien s'en souvient.
Ce qui m'a marqué ce soir-là, c'est une sorte de, curieusement, d'insouciance. Le fait d'échanger des sourires, Le fait de changer des regards. Maxime Deschamps va tenir la main de Chloé.
Vient ensuite la reconstitution du trajet. Cette nuit où Frias a conduit le convoi pour exfiltrer Aurélien du campement. Contrairement à ses dires, il n'a pu venir par hasard. Sur cette parcelle de vigne, au bout d'un chemin de terre et en impasse. Et encore moins Aurélien dans son état.
On sait qu'Aurélien ne pouvait pas descendre du camion là où ils l'ont déposé, remonter un champ, faire 200 mètres, marcher 200 mètres en pleine nuit, en pleine obscurité, sans ses lunettes.
Aurélien, abandonné vivant dans son camion, si loin de la Pantille, personne n'y croit.
En plus, il y avait l'obscurité totale. Là encore, la reconstitution a permis de voir qu'il fallait un éclairage pour élaborer tout le dispositif de pendaison. Il a fallu que le magistrat instructeur ait l'idée à ce moment-là d'amener une voiture devant la Pantille où on a retrouvé Aurélien, d'allumer les phares de cette voiture et avec l'éclairage des phares, là le système et l'élaboration du dispositif de pendaison était possible.
Si quelqu'un a suspendu le corps d'Aurélien, il n'a pas pu le faire seul. On a tenté, avec le corps d'un gendarme qui se livrait à l'exercice, de monter ce corps. C'est impossible à un homme seul. Il faut au moins être deux pour pouvoir monter ce corps et le suspendre. On est donc bien sur un complot criminel mené par plusieurs.
La défense, là, du coup, perd tous ses arguments. C'est-à-dire que l'hypothèse du suicide s'écroule complètement. C'est très clairement une mise en scène. C'est un meurtre suivi d'une tentative de maquillage en pendaison.
Mais qui a pendu Aurélien ? Frias ? Boulet ? Avec ou sans Deschamps ? Ont-ils pendu un Aurélien déjà mort de ses blessures ou l'ont-ils achevé avant de maquiller l'affaire en suicide pour que le blessé ne les dénonce pas ?
Dominique, le juge tourne toujours autour de la même question, alors il demande de nouvelles expertises médico-légales. Comment est mort Aurélien ?
Alors deux expertises, l'une au CHU d'Angers, l'autre à l'Institut médico-légal de Paris, dans une spécialité qui s'appelle l'anatomopathologie, on dit anapath. On étudie les lésions des tissus vivants ou morts. Le corps d'Aurélien va être exhumé. Les experts retrouvent cette lésion au niveau du cou qui a été laissée, on s'en souvient, par le cordon électrique qui a été utilisé au moment de la pendaison. Mais, surprise, il y a un deuxième niveau de lésion, un peu plus bas, qui correspond à des marques de préhension sur la peau du cou d'Aurélien. Et voilà ce qu'écrivent les experts. Ça peut correspondre à une striction laryngée à la main, on comprend ce que ça veut dire, entraînant la mort par asphyxie, suivie de façon proche ou concomitante par une pendaison.
Alors si on traduit, Aurélien a été étranglé à la main avant d'être pendu. Ouais. C'est bien un meurtre maquillé en suicide.
Oui, mais quand est-ce que cette strangulation a eu lieu ? Est-ce que c'est sur le campement ? Est-ce que c'est dans la camionnette d'Aurélien ? Est-ce que c'est après, sous la Pantille, où on l'a retrouvé, et qui l'a étranglé ? Et puis il y a une autre question, Rachid. Souvenez-vous, quand on retrouve Aurélien, il est parfaitement bien habillé, ses vêtements sont propres. Or, les autres racontent qu'ils ont fait pipi sur lui. Ça veut dire qu'on l'a déshabillé, qu'il a été rhabillé. Alors on se pose la question, qui est-ce qui a fait ce sale boulot ?
Et puis la question du mobile n'est pas claire non plus. Mm-hmm. Le juge a encore du boulot.
C'est sur le plus inquiétant des trois larrons que l'enquête se dirige tout de suite. Pourquoi Landry Frias s'est-il acharné toute la journée sur Aurélien ? La raison ? Les vendangeurs l'ont eu de la bouche même du bourreau. Tintin a raconté à qui voulait l'entendre ce qu'il avait sur le cœur.
Les motivations de André Frias, elles sont probablement nombreuses. Il y a son plaisir à faire souffrir un autre, son plaisir à être violent et à s'en vanter, et puis cette histoire de camion, cette histoire de gros sous.
Frias, il est jaloux du camion d'Aurélien. Il a longtemps participé à l'aménagement de ce camion et il considère que le camion lui appartient et donc il a des droits dessus. Donc il y a un vrai conflit.
Au milieu des tortures qu'il fait subir à Aurélien, il essaye de lui faire signer un acte de vente pour le camion. On en est là, ça montre que même au milieu de l'horreur, même au milieu de l'abjection la plus complète, eh bien, il y a toujours un petit peu d'argent à se faire.
Le plaisir de frapper, l'argent facile. Cela pourrait aussi constituer un mobile pour le second tortionnaire.
La motivation de Claude Boulet, elle est complexe, parce que lui, il n'avait pas d'intérêt particulier, sauf à être le soutien, le bras droit. Une espèce de mentalité de bras droit de l'André Frias, froid, posé. Et puis, effectivement, à la fin, on récupère l'ordinateur, qui est retrouvé chez lui en perquisition, donc il n'y a pas de petit profit.
Mais la défense de Claude Boulet trouve une autre explication à la soudaine violence du patriarche. Divorcé et éloigné de ses trois enfants, cet homme de 42 ans se faisait appeler « Papa Claude » sur le camp.
Son avocat, maître Pascal Rouillet.
Ce fils est la petite protégée de Claude. Il y a une relation un petit peu effectivement filiale. Il se perçoit un petit peu comme le parrain qui protège. Et c'est pour ça, je pense, que lui a agi également dans la sanction du comportement d'Aurélien tel que perçu à ce moment-là, parce que Aurélien avait touché sa petite protégée.
Quant à Maxime Deschamps, le plus jeune des bourreaux, c'est un petit gars de 22 ans, gentil, mais plutôt nerveux. Et lui, il aurait agi par aigreur et rancune.
La motivation d'un Maxime Deschamps, c'est de s'amuser comme dans un jeu vidéo. Peut-être que chez Maxime Deschamps, il y a de la jalousie de voir que le jeune artiste, un peu poète qui est Aurélien, a du succès auprès des filles, que Chloé aimerait bien se rapprocher d'Aurélien, que finalement c'est Sophie qui se rapproche d'Aurélien. Et chez Maxime, oui, faire payer le bellâtre, c'est peut-être une motivation. Et puis, chez la fille du viticulteur, la motivation, c'est l'amour. C'est l'amour pour l'André Frias.
Une addition de mobiles presque trop futile, anecdotique, au regard du déchaînement de violence qui s'est abattu sur Aurélien.
Mon idée, c'est qu'il y a eu un ressentiment qui est profond, qui est très ancien. Ressentiment économique ou financier, avec cette histoire de camion. Peut-être un ressentiment de classe. Parce qu'ils n'étaient pas du même monde du tout. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a une enfance harmonieuse, paisible. Il n'a pas les fractures que peuvent avoir les autres. Et avec ça, avec les histoires de drogue par là-dessus qui font perdre la raison, ou d'alcool sans doute, et tout se termine comme ça, dans le drame.
Ce garçon-là, sans doute, cristallisait des rancœurs. Ce fils de famille, qui n'avait pas tout à fait le profil des autres, qui n'avait peut-être pas tout à fait les mêmes codes que les autres, qui voulait ressembler aux autres. Mais d'une certaine manière, cette appartenance au groupe était peut-être un peu forcée, un peu usurpée. Alors le groupe s'est vengé. Et là, c'est la sanction de la différence, en fait.
Alexandre se souvient même qu'en tabassant Aurélien, l'André Frias avait craché sa haine. Une haine de classe.
Le père d'Aurélien, Jean-Jacques Piauget.
Il le dit, je crois, même dans un PV. Il dit que tu vas voir, toi, je vais te montrer ce que c'est que les vrais routards. Et donc Aurélien, effectivement, prend probablement catalogué comme fils de bourgeois, a dû en pâtir. Oui. Aurélien n'a pas certainement compris ce qui lui arrivait. Enfin, ça, je le souhaite. Hein.
Mais qui a commis le geste fatal ? Étranglé et pendu Aurélien Piauget ? C'est la cour d'assises du Maine-et-Loire qui va essayer d'avoir enfin la réponse. Le procès des vendangeurs s'ouvre le 11 mars 2013, 5 ans après la mort d'Aurélien. Un procès fleuve, 7 accusés, 12 experts, 63 témoins et puis un espoir. Que quelqu'un brise le mur du silence. Sylvie, Chloé, Alexandre et un copain de la bande, poursuivis pour non-empêchement de crime,
et non-assistance à personne en danger comparaissent libres. Dans le box, Frias, Boulet, Deschamps, accusés de séquestration, de torture, actes de barbarie et meurtre, encourent la perpétuité.
Bénédicte, la mère d'Aurélien, est sur le banc des parties civiles.
La première journée, je ne les ai pas quittés des yeux. Il n'y en a pas un qui nous a regardés. Les yeux baissés. Mais pas un mot.
C'est le magistrat Denis Roucoux qui préside la cour d'assises du Maine-et-Loire.
Sur un procès qui dure 3 semaines, l'avantage, c'est qu'on a du temps. Ce qui est surprenant, c'est que le fait de cette relation sexuelle entraîne une détonation, enfin entraîne une explosion. Le parcours de chacun ne permet pas d'expliquer pourquoi on arrive à une telle violence, même s'il y en a peut-être un qui est un peu plus violent que les autres.
Alors la cour va tout tenter pour briser l'omerta. On attend beaucoup du face-à-face avec Sophie, la fausse victime d'Aurélien. Pieds nus à la barre, look de hippie, drôle de témoin. Elle martèle sa conviction.
J'ai aucun doute sur ce qui s'est passé. Je sais très bien que c'est eux qui ont conduit le camion d'Aurélien jusqu'à sa mort. Et évidemment, je pense que c'est eux qui l'ont pendu. Et là-dessus, il n'y a aucun doute, il n'y a juste pas de preuves.
Du côté des hommes du box, c'est toujours silence total.
On n'arrive pas à les pousser dans leur retranchement. On peut penser qu'à un moment, l'un ou l'autre va avoir envie de dire « c'est pas moi qui suis responsable de tel ou tel événement, voilà ce qui s'est passé ». Et que pour sauver sa peau, l'espèce de bloc de silence qui existe va se fissurer.
La tension monte. Et si quelqu'un pouvait craquer ? Et si Sylvie, la fille du vigneron, était le maillon faible ? À la barre, elle est sous le feu des questions.
Vu comment elle était dans l'état, qu'il ne pouvait pas se lever, il fallait que quelqu'un l'aide, que tout ça. Tu dis non, il ne peut pas. Il ne peut pas se suicider lui-même.
J'ai encore en tête cette image de Sylvie qui a été un peu pressée de questions. Elle allait dire quelque chose.
Après, je ne peux pas inventer des choses que je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'est Landry ou Claude ou Maxime qui ont tué Aurélien. J'aurais vu... ce qui serait vraiment passé, si on n'aurait pas perdu le camion, peut-être qu'il y a eu un truc qu'ils ont fait le temps qu'on arrive.
Et puis c'est pas venu.
Mais personne n'est dupe. L'avocat de Sylvie va livrer une conviction personnelle à l'audience. Selon lui, le meurtre a eu lieu sur le campement.
À un moment donné, excédé, Landry Frias va monter dans le camion d'Aurélien. Il y monte seul. Il se passe un temps. Sylvie me dit, on n'entend pas, on n'entend rien. Et au terme de ces minutes, qui sont assez longues, Frias ressort, un peu comme un diable de sa boîte, parce que à partir de cet instant, il n'y a plus rien de plus pressé, de plus urgent, selon lui, de plus urgentissime, que d'emmener Aurélien loin du camp.
Fait rarissime, pour rompre le pacte du silence, le président organise un transport sur les lieux. Toute la cour d'assises va poursuivre l'audience au Gaudissart.
C'est exceptionnel qu'une cour d'assises se transporte sur les lieux. On comprend le dénivelé qui peut exister sur le terrain. On comprend qu'il n'y a aucun éclairage à proximité. Enfin, un certain nombre d'éléments qui permettent de réaliser que le suicide d'Aurélien n'est pas possible. Il faut pouvoir fermer cette porte. Ça n'a pas déclenché d'aveu spontané de la part de tel ou tel accusé.
Dominique, est-ce que les experts, psychiatres et psychologues, éclairent les faits ?
Pas vraiment, Rachid. Aucun trouble pas d'anomalie mentale, pas de délire, pas de psychose. Ce sont, selon les psys, des personnes qui étaient tout à fait conscientes de ce qu'elles étaient en train de faire.
Ils ont eu des enfances difficiles ?
Non, pas du tout. Ils ont grandi dans des milieux modestes, mais dans des familles aimantes, structurées. Tout allait bien dans ces familles-là. Il y en a un, Landry Frias, qui parle d'un père souvent absent, mais c'est un père qui s'absente pour travailler, c'est un père qui s'occupe de sa famille.
Est-ce que les psys savent pourquoi Claude Boulet, qui est le plus âgé, n'a pas su calmer les plus jeunes ?
Non, ça c'est la question. Mais Claude Boulet, 43 ans, c'est un type assez particulier. C'est quelqu'un qui s'alcoolise beaucoup, qui suit les copains, c'est un type influençable. Et d'ailleurs, ça va questionner les psys, parce qu'ils vont dire de lui, il n'exprime aucune compassion pour la victime et sa famille. Il a l'air complètement détaché de ce qui s'est passé et il considère, d'ailleurs il va le dire hein, au psychologue, qu'Aurélien a fait le mauvais choix. C'est dur.
Et ce Landry Frias, il paraît qu'il faisait peur.
Alors, un homme brutal et peu intéressant, disent les experts. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes avec notamment une ex-petite amie. Il était sujet à des crises violentes. Et voilà ce qu'écrit le psychologue. Il fait preuve d'une immaturité affective. Il a des difficultés de confiance en lui qui le font parfois se sentir le plus fort.
Est-ce que pris isolément, ils auraient pu commettre de tels actes, ou alors est-ce que c'est l'effet de groupe qui les a fait plonger ?
Alors ça, ça n'est évoqué que dans une seule expertise, celle de Landry Frias, et le psy écrit, il a pu se laisser influencer par le phénomène de groupe.
Alors en conclusion, il n'y en a pas un dont la violence sort du lot, et les experts n'éclairent pas la cour. Désespéré de ne pas connaître la vérité sur la mort de son fils, Bénédicte Piauget en appelle alors à l'humanité des accusés.
Si vous aviez de l'amitié pour Aurélien, si vous avez pu en avoir, je suis une mère, je suis une maman, je veux savoir, dites-moi la vérité, c'est aujourd'hui que vous pouvez parler.
Parlez, dites quelque chose, je les regarde. Ils regardent toujours leurs chaussures. Pas un ne s'adresse à moi, pas un ne me parle. Et là je leur dis, mais que leur cruauté n'a d'égal que leur lâcheté, ou que leur lâcheté n'a d'égal que leur cruauté, et que, voilà, jamais je pardonnerai.
Le journaliste Jean-Yves Lignel se souvient de cet instant.
Je me souviens de la tête de Frias en face, qui faisait son espèce d'étonné, comme si, comment pouvait-on l'accuser d'une chose aussi horrible, tout ça, c'était un peu surréaliste comme moment. C'est cette maman, cette espèce de mater dolorosa qui était là, et Frias qui était pitoyable en face. On se dit, c'est dommage, on ne saura pas, tout le monde est déçu, parce que c'était l'ultime moment où on pouvait avoir éventuellement l'explication, et on ne l'aura pas.
L'avocat général demande 30 ans de réclusion pour les trois principaux accusés. Mais à l'heure du verdict, c'est la surprise.
La cour ne dispose d'aucun élément de preuve pour imputer le crime à l'un plutôt qu'à l'autre des accusés de meurtre. Dans ces conditions, la cour ne peut que les acquitter de ce crime.
Il ne reste donc que les tortures et les actes de barbarie à punir. Sylvie et Chloé, celles qui n'ont rien empêché, prennent 3 ans de prison, dont un ferme. Alexandre et un copain de la bande, les témoins passifs, écopent de 2 ans avec sursis. Quant au trio du boxe, ce sera 15 ans pour Boulet et Deschamps, 18 ans pour Frias. Puis le président s'adresse solennellement aux accusés.
Il y a au moins une personne qui a étranglé Aurélien Piauget. Il me semble avoir ajouté, en m'adressant aux accusés, parce qu'il ne fallait pas non plus être dupe, que le meurtrier était certainement l'un ou l'autre des accusés qui étaient dans le box.
Le doute a pleinement bénéficié au vendangeur.
Une décision saluée par l'avocat de Sylvie, Alain Fouquet.
C'était une décision très courageuse, au-delà du courage. Parce qu'il faut du courage, parfois, pour ne pas se laisser aller aux émotions. Et je pense que le président, comme les jurés, ont su résister à cela.
Il est important, quand on préside une cour d'assises, de garder une certaine humilité. On n'est pas un justicier. On est là pour faire émerger
le plus possible la vérité, pas avec un pouvoir surnaturel qui permettrait d'établir à tout prix la vérité absolue et d'aboutir justement avec certitude à déclarer systématiquement quelqu'un coupable.
Mais pour la famille d'Aurélien, le verdict est très difficile.
On a bien l'assassinat de notre fils qui a été confirmé, mais on n'a pas son assassin.
On ne sait pas qui est responsable vraiment de ça, qui a fait le dernier geste. Et ça, c'est très traumatisant. Pourquoi nous laisser comme ça? C'est pas humain. C'est pas humain.
C'est pas humain, justement. Mais de toute façon, avec ce qu'ils avaient fait, ils peuvent pas être humains. Chaque année, c'est compliqué, les vendanges, parce que on voit les camions des saisonniers, on revoit la scène, en fait. De la soirée de fin de vendange où Aurélien était, moi, je le revois sous la bâche, derrière le camion. On revoit tout ça, en fait.
Personne n'a fait appel. Les vendangeurs ont emporté leur secret derrière les barreaux. À ce jour, le meurtre d'Aurélien n'a donc pas d'auteur. Ou plutôt si, la lâcheté.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à la mort d'Aurélien Piogé. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.